pas de Gilto dans notre émission. Oh que non. Mais Mathias Turcotte, comment ça va, Matt?
Ça va très, très bien, toi, Jeff.
Ça va super bien. La pieuvre Turcotte, qu'on va l'appeler. Fait tout. Il nous colle une entrevue. Il nous sort des extraits. La pieuvre Turcotte.
Je vais prendre le compliment. Drôle de nouveau surnom, par contre.
Ouais, c'est ça. Je te le dirai pas trop souvent. On a Antonine Iacarini qui est là. Comment ça va, Anto?
Ça va. Moi, c'est quoi mon animal totem?
Ah, je sais pas. Ah, c'est quoi ton animal totem?
C'est glissant comme t'aurais fait bien attention.
Non, ben, tu sais, Anto, toi, t'es comme toujours posé. T'as les bons mots. T'sais, c'est quoi un animal qui est vraiment comme intelligent, sensé?
Un humain? ouais, on va penser à ça. Me reviens demain.
On pense à ça. Moi, ça serait quoi, mon animal?
Un Golden Retriever.
Un Golden Retriever? Comment ça?
Ben, t'es comme tout le temps content.
Attends, t'as-tu dit comment ça, Jeff? Comment ça?
Il est pas d'accord. Il a pas l'air satisfait de son totem.
Je suis full satisfait. Golden Retriever.
Toujours le sourire d'en face.
Hey, savez-vous quoi? Je vais faire quelque chose que quand je fais à radio, ma blonde haït, mais je vais le faire quand même, OK?
Vas-y.
Parce qu'hier, j'ai pas eu le temps, hier soir, j'ai pas eu le temps d'en parler à ma blonde, mais j'ai été approché par l'équipe de l'Université Laval pour les Jeux des communications.
Oui!
L'épreuve radio. Ils doivent faire un 30 minutes d'émission d'affaires publiques et ils m'ont demandé d'être leur coach.
C'est malade. Bravo.
Je vais être leur coach avec
ça, c'est
Matt Marcotte.
Moi, j'aime ça, faire des affaires avec des étudiants.
Ben
puis
oui.
Honnêtement, Jeux de la com, j'ai participé à quelques trucs. Pas pendant les Jeux de la com, mais participer à préparer des gens. Donc, donner des présentations sur
j'ai vraiment hâte.
Communication, politique efficace, des choses comme ça. Fait que tu vas bien t'amuser.
Ah oui, et là, je le fais avec Mathieu Marcotte de Weekend, que vous entendez également la fin de semaine à Boulevard. Fait que Matt va s'occuper de tout le format, le dynamisme, le kit. Puis moi, je m'occupe de la structure de l'émission.
Pourquoi ta blonde n'aime pas ça que tu fasses ça?
Parce qu'elle aime ça que je dise avant que je le dise.
Ah, tu l'as annoncé!
C'est ça. J'ai comme pas eu le temps hier soir, tiens, pardon, on a eu une grosse soirée. Fait que on dirait que par quatre fois, j'ai dit, chérie, faut que je te parle de ça.
Là,
parce que je savais que je serais trop énervé pour le dire.
Faites pas vos exercices d'agenda puis de logistique en ondes par onde interposées.
Non, non,
ça
non,
peut
non,
pas marcher de même.
Non, 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 je sais, c'est pour ça que j'ai un terrain glissant, mais je sais qu'à cette heure-là, elle est en train de s'entraîner, fait qu'elle écoute pas. Elle va peut-être réécouter l'émission tantôt, par exemple, fait que peut-être que je me ferai chicaner ce soir, mais comme je vais être au débat à Chambre des commerces, au moins ça va attendre.
Elle va avoir le temps de dépomper, c'est bon.
Comme si Val était tortionnaire à mort, hein, faut faire tout. Quelle incroyable.
Jeff, tu vas triper à le faire, puis pour avoir fait des jeux de la communication dans le passé, c'est toute une expérience, puis c'est des étudiants vraiment passionnés. Puis regarde, tu vois, cette année à l'université, cette fois-ci, étant donné que j'étudie en politique, je fais des jeux de la science politique.
Ah, c'est dommage cool.
Parce que c'est des expériences fantastiques, t'apprends tellement durant ces mois de travail-là, acharné. Puis l'expérience sur 4 jours, c'est indescriptible.
Là, je sais
comme
pas, je leur ai fait peur parce que, tu sais, ils m'ont fait la demande hier vers 4h hier après-midi. J'ai tout de suite dit oui. Puis hier soir à 8h15, je leur envoyais le dossier que tu as fait sur les médias sociaux.
Oui.
Après ça, je leur envoyais la discussion que nous autres on a eue, nos plans de match respectifs.
Ils connaissaient pas ton intensité.
Après ça, je leur ai envoyé des plans de match que je faisais cet été parce que j'ai regardé cet été quand je commençais à animer. Je détaillais beaucoup plus mes choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On pourrait se rencontrer en personne. Fait que finalement, à un moment donné, ils répondaient au début d'un texto tout heureux. Hey, wow, on a donc bien un bon coach. Puis à la fin, j'avais plus de réponse. C'est comme si on fait oups. Fait que là, je leur ai dit désolé, guys, de vous avoir fait peur, mais inquiétez-vous pas, je serai pas trop intense.
Ah, écoute, c'est ça quand tu dis à un Golden Retriever qu'on s'en va au parc.
Hey, je leur ai dit, on est là pour gagner. L'année passée, médaille de bronze, Université Laval. Cette année, ça sera la médaille d'or. Rien d'autre que ça. Il faut viser haut dans la vie. Viser très, très, très haut. Parlant de viser haut, ben, y a deux gars qui étaient en studio avec nous ce matin, Stéphane Lachance et Claude Villeneuve. Deux politiciens municipaux qui essaient justement de se sortir de l'ombrage de Bruno Marchand et Sam Hamad pour réussir à quoi peut-être passer au deuxième rang. Et sait-on jamais passer au premier rang et dépasser le maire Marchand qui était en avance dans les derniers sondages? J'ai trouvé en premier lieu que c'était un débat très serein, basé sur les idées. Puis j'ai beaucoup aimé, contrairement au débat Hamad-Marchand. Je pense que l'exercice démocratique, je pense que les gens, puis textez-nous là, au 418-971-1011, je suis convaincu que les gens, ça textait ce matin, que ça allait apprécier, ont une meilleure connaissance de qui est Stéphane Lachance et qui est Claude Villeneuve. Puis Antonine, c'est ça que ça sert, un débat, ça sert à débattre de nos idées, ça sert pas à dire à l'autre, t'es pas bon, tu connais pas tes chiffres.
Ben écoute, tu connais mon opinion sur les débats, c'est pas censé être des attaques personnelles. C'est censé être pour mettre de l'avant tes idées, mais aussi critiquer les idées de l'adversaire. Oui. Faut pas s'entendre, oui, faut pas s'attendre à ce que ce soit le kumbaya. Ben écoute, oui, je suis d'accord avec.
On n'est pas à maternelle. Ouais,
on n'est pas à maternelle, puis c'est pas tout le monde gagne. Là. C'est des élections. Il y a quelqu'un qui va gagner, puis il y a quelqu'un qui va perdre.
La Québec, il y a 6 candidats. Fait que t'as pas le choix d'essayer de te démarquer un peu. T'sais.
Exactement. C'est correct, mais quand même, il faut réussir à travers la joute politique à placer des idées qui vont résonner chez les gens. Des fois, les gens, en fait, puis on est tous pareils, que ce soit dans le monde des communications, des médias ou de la politique, on oublie à qui on parle. Donc, quand tu te rappelles à qui tu parles, généralement, tu passes pas à côté de la cible. Puis je pense que les gens, ce qu'ils veulent entendre, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour moi.
Exactement. Matt, comment t'as trouvé l'exercice ce matin?
Ben moi, comment que je résumerais ça? Après avoir écouté, je me suis posé la question qui a gagné, Stéphane Lachance, Claude Villeneuve, qui a fait le meilleur débat? Puis je suis arrivé à la conclusion, c'est ni un ni l'autre qui a gagné, c'est les électeurs de Québec. Parce que les deux étaient là pas pour planter l'autre, pour discuter, pour faire avancer leurs idées, puis pour défendre leurs idées. Ça a été un changement de ton par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, que visiblement on avait un ton un peu plus agressif du côté d'Amad. On est sorti de là avec une analyse qui a gagné le débat parce que la question se posait. Là, je trouve qu'au contraire, on a eu les idéaux des deux parties. On n'a pas eu de dérapage. Bon, on a eu un petit le ton a monté un peu au moment où que Claude Villeneuve a parlé des fameuses taxes impayées de Stéphane Lachance. Ouais. Mais dans un ensemble, ce débat-là était un exercice extrêmement constructif.
Parlant des taxes impayées, on écoute justement une partie là, de cet échange-là entre Claude Villeneuve et Stéphane Lachance.
Moi, je vous parle de la gestion de l'argent du monde. C'est ça qui est important. Oui. C'est très sensible. Puis là, vous n'allez pas juste avoir une adjointe à la ville, vous allez avoir 7000 employés qui vont être sous votre responsabilité.
On va avoir des gens compétents aussi qui vont nous supporter à ce niveau-là. Donc, notre cadre financier.
Vous voulez congédier toute la fonction publique municipale de Québec?
Non, absolument pas. On va, dans les 100 premiers jours, on le dit depuis le début avec Respect Citoyen, on va rencontrer les gens qui sont en poste, on va s'assurer que les gens sont dans les bonnes chaises. On va s'assurer aussi que ces gens-là comprennent ce qu'on propose aux citoyens au niveau de notre proposition. Et puis, ces gens-là devront être dans la continuité. Si ces gens-là ne se sentent pas à l'aise dans cette continuité-là, bien, on va leur trouver autre chose à faire. Mais chose certaine, c'est fini le temps où on propose des choses en campagne électorale. Puis quand on arrive en poste, on fait tout le contraire. Puis c'est ce qu'on a vécu en 2021 avec l'administration Marchand. Alors, nous, on n'a pas l'intention de s'inscrire dans ça.
Reste 30 secondes.
Je suis désolé, M. Lachance, mais vous n'avez pas la crédibilité pour affirmer ça. C'est, à un moment donné, il faut être capable
Moi, j'ai
de
la crédibilité. Ça fait 42 ans que je suis en affaires. J'ai jamais fait de faillite. Puis pendant 4 ans, vous avez siégé avec David Weiser, qui est en faillite. Hein? Fait que c'est ça. C'est drôle qu'on sort ça.
Arrêtez de crier, M. Lachance.
Je ne crie pas du tout. C'est drôle qu'on sort ça la journée du débat. Mais
qu'est-ce que David Weiser vient faire là-dedans?
Ben, David Weiser était responsable de l'économie. Puis il était à l'économie.
Moi, je n'étais pas dans l'économie, M. Lachance. C'est mon tour de parole. Je pense que vous n'avez pas la crédibilité pour défendre ces choses-là. Je pense que dans notre gestion personnelle, la façon dont on se conduit, notre réputation, c'est le meilleur garant de la façon dont on va se conduire comme maire.
418-971-1021 pour réagir. Antonine, je veux t'entendre là-dessus parce que ce matin, c'est sorti. Stéphane Lachance n'avait pas payé ses taxes pour sa maison à Lévis. Il parle d'erreur de matricule, son adjointe administrative qui a mal fait le paiement. Il est arrivé justement avec des documents, il me les a remis ce matin. T'en penses quoi? Faut-tu s'attarder à ça ou non du côté de Stéphane Lachance qui prône la rigueur budgétaire?
Ouais, c'est toujours une faiblesse pour un candidat quand tu as eu une faillite ou quand tu as eu quelque chose d'irrégulier qui est public, etc. Ou quand tu as peut-être des fois fait quelque chose de discutable. Tu sais, par exemple, je pense à Montréal, à Soraya Martinez qui avait des enjeux avec des logements qu'elle loue, puis ça est sorti aussi dans les médias. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'avoir fait une erreur dans ta vie ou une faillite, ça ne te disqualifie pas de te présenter en politique, mais tu sais que ça va être une faiblesse et que tu vas être attaqué. Donc, c'est de bonne guerre de la part de Claude Villeneuve de l'attaquer là-dessus, parce qu'on questionne le jugement des gens, la compétence, leur éthique, etc., et c'est normal, mais honnêtement, là, gérer une ville ou un pays ou une province, c'est pas la même chose que de gérer une entreprise ou de gérer de l'immobilier. Puis c'est vrai qu'il y a une administration qui est beaucoup plus là, solide.
Exactement. Stéphane Lachance avait ceci à dire après le débat, justement, par rapport à ces attaques de Claude Villeneuve.
Bien, écoutez, je m'attendais à ce que ça... Bien, ce soir, en tout cas, je m'attends à ce que ça sorte, bien évidemment. Par contre, qu'on en fasse directement rapport dans le débat qu'on avait... J'ai trouvé ça un petit peu cheap shot, mais écoutez, c'est la politique. Alors, il y avait une brèche, il est rentré dedans, il l'a exploité. Moi, j'ai donné mes explications. Il y a eu une erreur, On a corrigé notre erreur, le solde est à zéro et puis on continue.
Je pense qu'il l'explique bien, Stéphane Lachance, puis il s'attendait à ce que ça sorte. Il s'attend à ce que ça sorte ce soir, évidemment, parce que c'est le débat à la Chambre de commerce. Alex qui écrit effectivement un bien meilleur débat. On connaît le programme des deux mieux que dans celui de Hamad Marchand. Propose deux autres débats. Marchand contre la chance, Hamad contre Villeneuve.
Hey, on va être dans le jus à boulevard avec les débats. Cool.
Claude qui marque très instructif, mais aucun n'avait de bilan à défendre. C'est vrai que ça change la teneur en termes de débat. Je suis très d'accord. Et puis, en voiture, on parle ici d'Éric Mercier qui est dans l'équipe de Respect Citoyen et que ça nuit à la crédibilité de M. Lachance. Ouais, en effet, Éric Mercier, c'est plus le plus populaire dans Charlebourg. Là. Je travaille avec beaucoup d'organismes communautaire là-bas, puis disons qu'il a perdu des plumes durant son dernier mandat. On ne le voyait pas beaucoup. Autre point de désaccord, évidemment, entre les deux, Stéphane Lachance et Claude Villeneuve. Un prône pas de tramway, pas de transport structurant, juste le RTC. L'autre prône le tramway. On écoute justement le débat entre les deux concurrents.
Oui. Actuellement, là, je veux dire, il y a une mauvaise gestion. On voit des autobus où on devrait avoir des articulés, puis on met des autobus conventionnels pour pacter les gens. Ça donne bonne presse, ça, de dire, regardez comment que les gens sont serrés, ils sont pas capables de fonctionner. Puis, par contre, le dimanche, on fait passer des articulés avec une seule personne à l'intérieur. Il y a un problème de gestion. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a fini 9e sur 10 oui. des sociétés de transport? Il y a un problème au RTC. Comment pensez-vous la logique de confier un projet de 7, 8 ou 9 milliards à une organisation qui est déjà en crise? On doit commencer par régler le problème du RTC, puis de faire en sorte que ce service-là soit optimal avant de leur confier des tâches. Sinon, c'est illogique.
D'abord, on peut marcher puis mâcher de la gomme en même temps. On peut revoir la gestion du RTC, on peut travailler là-dessus, faire des changements dans la direction, couper dans le nombre de cadres, tout en avançant un projet qui est prêt.
Construire l'avion en vol, comme on dit.
Ben, en fait, non, le promoteur, c'est CDPQ Infra. Eux, ils sont capables de construire ça de leur côté. Pendant ce temps-là,
on va
faire
le
ménage du RTC.
C'est un gros succès avec
eux. Ils ont eu des très bons succès à Vancouver, à d'autres endroits où ils ont travaillé. Le REM, c'est un projet complètement
Vancouver,
différent.
Québec, c'est pas la même condition climatique.
Je trouve que Stéphane Lachance a été tantôt moins bon, tantôt bon dans cet extrait-là, puis je m'explique. Il a fait beaucoup de démagogie sur l'RTC. C'est pas vrai qu'on met les autobus 40 pieds à des places à prendre un articulé, puis c'est pas vrai qu'on fait rouler un articulé avec juste une personne à bord.
Non, mais c'est une idée qui est bien implantée dans la tête du monde,
exactement.
Les bus vides.
Oui, exactement. Puis ça existe, les bus vides, soit dit en passant. C'est les parcours, puis c'est comme ça le transport en commun. Là. Et le RTC essaye de plus en plus de mettre des autobus justement hybrides à 24 passagers sur ces parcours-là. Mais c'est des parcours, on n'a pas le choix d'aller chercher du monde chez eux parce qu'il y a des personnes aînées qui n'ont plus de moyens de transport, il y a des personnes défavorisées qui n'ont pas de voiture, il y a des enfants qui ont besoin d'aller à l'école,
puis
d'aller dans
leur loisir.
Puis il y a des
heures de pointe, c'est ça, puis il y a des contrats de travail avec des chauffeurs.
C'est ça, puis il y a des heures hors pointe. Donc ça existe, ces autobus vides. Dans la plupart des cas, il y a une raison. C'est sûr qu'au niveau du RTC, il y a de l'optimisation à faire parce qu'il y aurait des autobus vides qu'on pourrait retirer. Ceci dit, c'était pas la meilleure de Stéphane Lachance. Par contre, moi, je l'ai trouvé bon quand il a attaqué la caisse de dépôt et de placement, section infrastructure avec le REM, parce que c'est vrai que pour moi, ça reste un enjeu que ce soit eux qui s'occupent du tramway quand on voit ce qui se passe à Montréal avec le REM.
Oui, effectivement. Ça... Puis, tu sais, de Québec, qu'on n'utilise pas le REM, qu'est-ce qu'on reçoit de nouvelles du REM? Ben, c'est quand il ne marche pas. Hein.
Oui, c'est vrai, ça, par exemple. Tu marques un point.
Le REM, ça va finir par fonctionner. Puis c'est vrai qu'aussi que, pour vrai, si vous étiez à Montréal, moi je suis à Montréal souvent, là, le métro est beaucoup plus souvent arrêté que le REM. Ça fait pas les.
Non, ça fait pas manchette, c'est vrai. Ah, tu nous amènes un bon point,
bon,
j'aime ça.
Je te dis pas que c'est parfait, là, je veux pas trop me mettre en position de défendre. Mais cela dit, c'est vrai que c'est deux enjeux qui sont complètement différents. Et là-dessus, je vais donner le point à M. Villeneuve. On peut continuer d'avancer un projet qui est déjà prêt.
Ben oui.
Tu connais mon opinion là-dessus. Sérieux, il faut qu'on recommence à zéro.
Moi, non, moi aussi.
En attendant, pendant qu'on est dans la phase de construction, s'il y a de l'optimisation à faire du côté du RTC,
clairement.
Faisons-la.
Oui, et de toute façon, ça, c'est prévu. C'est ce qui tarde du côté du RTC là, à l'heure actuelle. Là, je trouve leur plan d'optimisation là, qui est... C'est latent, là. On est 9e sur 10, puis on s'est pas pris en main encore, là. Puis on était 9e sur 10 au mois de novembre, l'année passée. Fait que comment serait le temps?
Oui, puis de toute façon, même si on décide de pas faire de tramway, la Ville de Québec paierait plusieurs centaines de millions en termes de dédommagement pour le gouvernement du Québec, quand que, présentement, le coût total du projet que va être chargé à la Ville de Québec est plafonné à 750 millions. On sauverait environ, on sauverait total tout un 250-300 millions, mais on n'aurait pas de projet. Ça vaut-tu exactement vraiment la peine au final? Ouais. La question se pose quand même. Là.
Non, puis j'ai posé la question quelques fois, puis je la repose encore. 418-971-1021, est-ce que le tramway pour vous est un enjeu électoral? Je veux vous entendre à cet effet-là. Je te présente, Antonine, mon coup de cœur, Claude Villeneuve et sa vision sur 15 ans de la ville de Québec.
Dans 15 ans, je veux offrir à mes filles une ville qui va avoir réglé ses problèmes, qui va regarder en avant. Moi, depuis que je suis chef de l'opposition, je fais le même point de presse à tous les mois. À toutes les semaines, je me fais questionner sur le tramway, sur la mobilité, ces choses-là. Je veux qu'on mette ces sujets-là, qu'on les règle, qu'on les mette derrière nous, puis pas comme le promesse à ma mère qu'on parle encore du tramway en 2040. Je veux une ville qui va pouvoir rêver, par exemple, d'accueillir une exposition universelle comme des gens d'affaires le proposent à Québec. Moi, j'ai proposé l'idée d'Horizon 2035 en partenariat avec Wendake, une fête qui aurait l'ambition du 400e pour recommencer à avoir une ville festive, une ville engagée. On propose la création d'une cité des sports au parc Victoria pour attirer des concessions de soccer professionnels, féminins, masculins, bâtir un stationnement étagé justement pour desservir Saint-Roch, mais aussi le pôle d'échange du tramway, revoir notre entrée de ville au complet. Je veux que Québec, dans 15 ans, recommence à faire, en fait, bien avant dans 15 ans, recommence à faire l'envie des villes partout au Canada pour sa croissance, son dynamisme, pour le fait que c'est une ville tripante à habiter, pour le fait que c'est une ville accueillante, puis oui, qui est unie du centre à la banlieue.
J'aime beaucoup.
Bravo. Puis
j'aime l'ouverture, j'aime les artères commerciales, j'aime de voir grand avec des expositions, on attire le monde, des événements. J'adore.
Mon bravo, en fait, je le disais à toi, Jeff, parce
comment
que, tu sais, dans notre univers médiatique, on va toujours mettre la loupe sur le négatif.
Ouais.
On fait des petits clips de 10 secondes. On coupe beaucoup les porte-paroles, que ce soit en politique ou autre chose, à des petites clips. Je trouve, puis là, je fais de l'auto-flattage, là, vous m'excuserez le monde à la maison, mais
merci, c'est
parce que
gentil.
C'est important. Tu donnes la chance aux gens de finir leur pensée. On a entendu la vision de Claude Villeneuve du début à la fin. Parce que souvent, ce qu'on entend dans la population, c'est les politiciens nous font plus rêver, on est toujours dans le négatif, c'est les attaques personnelles, c'est la boîte, etc. Mais c'est pas vrai. Hein? Les candidats, souvent, apportent des idées, des visions, mais c'est pas toujours retenu par les médias. Il y en a des politiciens qui ont une vision à proposer, des propositions. C'est pas juste du négatif.
Ouais, ça, c'est pas toujours sexy. Avoir une vision à long terme. Et pourtant, c'est ce qu'on devrait demander à nos politiciens. On ne veut pas qu'ils gèrent pour leur mandat de 4 ans. On veut qu'ils regardent la ville dans 15-20 ans.
On veut savoir c'est quoi la vision en bout de ligne. Puis on n'arrête pas de dire à nos politiciens qu'ils pensent trop à court terme.
C'est ça.
Mais c'est notre responsabilité aussi comme citoyens de s'intéresser.
Exactement.
On se voit où dans 10 ans, là?
Et c'est pour ça que je tenais à partager cette vision de Claude Villeneuve-là. Et vois-tu, par texto, je m'enligne pour Claude Villeneuve. J'ai aimé son discours, sa vision. Fait que tu vois, Claude Villeneuve a gagné des points, justement, ce matin. Je termine avec Stéphane Lachance, parce qu'on en a parlé, Antonine, la semaine dernière, de son fameux 150 millions de compression. Comment qu'il va faire? Où il va aller le chercher? Et il y a un auditeur qui a posé la question. Ça, excellent flash, Yannick Marceau, disait, toi, Jeff, là, tu récoltes les questions des auditeurs, puis on les passe avec les candidats à la fin. On a choisi, justement, trois questions qui s'adressaient aux deux et une question à chacun. Et la question à chacun, c'était ça. C'était une auditrice qui disait, ouais, mais monsieur Lachance, vous allez faire comment pour prendre 150 millions dans les coffres de la ville et ne pas couper les services? Voici sa réponse.
Bon, bien, il n'y aura pas d'affectation de services. Puis tout à l'heure, M. Villeneuve a parlé de Chainsaw. Il n'y aura pas de Chainsaw qui va arriver le 3 novembre au matin à l'Hôtel de Ville de Québec. Ce qu'on fait tout simplement, le problème, c'est qu'actuellement, c'est pas qu'il rentre pas assez d'argent à la Ville de Québec, c'est qu'il en sort trop. Alors actuellement, Bruno Marchand est sur un cadre de 2,5% de dépenses par année. Nous, on ramène ça à 1,25. Donc ça, c'est la première des choses. On veut se priver en tant que tel, avec entre autres les différentes mesures, le stationnement, ces choses-là, d'environ 100 millions de dollars, mais on va compresser 150 millions, ce qui va faire que ça va nous donner une marge de manœuvre de 50 millions qu'on va appliquer sur la dette. Et nous, en tant que tel, ce qu'on vise, c'est que la diminution d'intérêt qu'on va payer en faisant des remboursements, comme Régis Labeaume le faisait d'ailleurs au début de son mandat, bien, ça va faire en sorte que ça va nous donner plus de marge de manœuvre pour offrir des meilleurs taux de taxes aux citoyens de Québec.
Malheureusement, puis Stéphane Lachance, c'est pas plus clair. T'sais, il va diminuer de 2,5 à 1,25, mais il y a de l'inflation. Il dit, je vais diminuer sur l'intérieur payant comptant, mais comment je vais faire pour avoir cet argent-là dans mes mains? Je vais compresser 100 millions, mais où? Dans ma salariale? Je te souhaite bonne chance. C'est pas plus clair après cet extrait-là, malheureusement. Puis c'est pas pour casser les œufs sur le dos de Stéphane Lachance, c'est juste que je le trouve pas clair dans sa proposition financière.
Ouais, puis objectivement, vite de même, avec les infos qu'il nous donne, ça balance pas.
Exactement.
Puis tu sais, en politique comme en publicité, quand on vous vend quelque chose qui semble trop beau pour être vrai, là,
Posez-vous des questions?
Ouais.
Ouais, non, c'est vrai. T'as raison, je trouve que.
T'sais, j'aimerais ça que ce soit vrai, que ça marche de même, là. Ouais. Puis qu'on coupe, qu'on soit plus efficace, puis qu'on fasse beaucoup plus avec moins. Je ne peux m'empêcher d'avoir certains doutes. Maintenant, tu sais, si il fait des cadres financiers éventuellement qui sont plus précis puis qui nous expliquent, je pense qu'il faut avoir l'ouverture d'esprit.
Clairement.
De l'écouter. On verra.
Clairement. Good. Une auditrice, un auditeur nous écrit « Oui, pour moi, le tramway est un enjeu. J'aimerais mieux optimiser le RTC, ajouter des bus et parcours. Quand tu as une panne, tu peux envoyer un autre bus. Tu ne coupes pas de voie aux automobilistes. Et qu'est-ce qui va arriver quand le tramway va être en panne ou avoir de la misère en hiver comme à Ottawa? On va être fourré. » Merci beaucoup pour ton point de vue. Moi c'est... Ce qui me sécurise un peu là-dedans, c'est qu'au niveau de Mobilité Infra-Québec, on est allé chercher René Amilcar, qui était la gestionnaire qui est arrivée à Ottawa quand le tramway était sa scrap.
Ouais.
Il y avait 121 recommandations. Elle les a mis en place en moins de 2 ans, puis le tramway Ottawa roule bien.
Mais c'est sûr que ce qui s'est passé à Ottawa, ça peut, disons, alimenter nos anxiétés par rapport à un tramway, parce que c'est pas ce qu'on appelle un grand succès. Mais si on a tiré les leçons de tout ça, ben on risque peut-être d'avoir un projet qui est encore meilleur. Là.
En plein ça. On passe au... Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonin Iaccarini. Ça, c'était le pré-caucus où on est revenu sur notre débat ce matin. Merci à Yannick Marceau d'avoir eu l'idée d'organiser le tout et l'animer de main. Continuez à réagir au 418-971-1021. Vous voyez, on adore aller prendre de vos commentaires. Hey, Antonine, ça va pas bien. On a des camions sur la route qui font des accidents à planche. Ça n'a pas de bon sens. On a suspendu 185 permis le 16 septembre dernier en Ontario, mais depuis ce temps-là, il n'y a pas d'autre action qui s'est faite. Puis ils continuent à avoir des accidents mortels. Ils continuent à avoir des chauffeurs qu'on appelle à rabais sur nos routes. Qu'est-ce que ça va prendre?
C'est un énorme dossier, cet enjeu des camionneurs qui ne sont pas formés, qui n'ont pas d'expérience, qui ont des comportements qui sont dangereux. On a vu une augmentation d'accidents graves. On s'entend qu'un accident avec un camion lourd, là, c'est rare que ce n'est pas grave.
C'est pas pardonnable. T'sais, on en a eu une... Où justement, Pascal avait fait un dossier, elle avait parlé à la survivante qui s'était faite pogner entre un camion et un autobus scolaire. Puis là, tu sais, je veux pas commencer à dire ça vient juste de l'Ontario pour te le quitter, mais le gars parlait pas français. Quand il a demandé qu'est-ce que tu faisais, où c'est que tu regardais, elle s'est même rendu compte qu'il était sur son cellulaire.
Ben, c'est ça. Fait que c'est ça l'enjeu présent. Puis juste te dire, on dit ça vient de l'Ontario puis tout ça. Moi, je commande des paniers bio à chaque dimanche. OK?
Ouais.
Ça part de Montréal et ça s'en vient à Québec.
Québec.
Mes chauffeurs ne parlent pas un mot français, pas capable de dire bonjour.
Bon, fait que tu vois, merci d'amener cette autre vision-là.
Puis là, tu te dis, c'est pas grave, ils sont dans leur camion, ils ne parlent pas français. Oui, c'est grave parce que, premièrement, il faut lire les panneaux. Au Québec, sont une langue en français, les panneaux. Ça veut dire, qu'est-ce que tu as eu comme formation sur le contexte du Québec? Qu'est-ce que tu as comme compréhension aussi des us et coutumes sur la route? Parce que, oui, il y a le formel. Mais la conduite, il y a de l'informel. Tu sais, quand on change de juridiction et qu'on s'en va conduire à l'étranger, tu te rends compte que les habitudes ne sont pas les mêmes, mais il faut comme s'habituer. Mm-hmm. Donc, ça crée des enjeux. L'enjeu aussi se mélange avec le fait qu'on a retiré des contrôleurs routiers de nos routes en ce moment.
Oui.
Qu'on a décidé, en fait, il y a eu une décision du tribunal administratif du travail qui a décidé de confiner les contrôleurs routiers à des interventions dans des lieux fixes. Donc, ils n'interviennent plus de manière ad hoc là, sur nos routes. Et ça, c'est un risque supplémentaire. On a décidé d'y aller comme ça parce que nos contrôleurs routiers ne sont pas armés. Donc, ça peut poser des dangers.
C'est pour leur sécurité.
Pour leur sécurité. Moi, j'ai envie de vous dire... armons-les.
Exactement.
C'est comme des policiers, là, ces gens-là. Si c'est dangereux d'intervenir, ben logiquement, je veux dire, ou alors on transfère les responsabilités aux policiers, on donne plus d'effectifs. Mais là, on a vraiment un risque supplémentaire sur nos routes. Juste pour un petit peu résumer l'enjeu des chauffeurs, on parle d'entreprises qui embauchent des chauffeurs qui ne sont pas formés, qui sont souvent des travailleurs étrangers temporaires, qui peuvent payer pas très cher, par exemple. Bref, il y a tout un débat.
Mais l'exemple de l'Ontario sur Radio-Canada, on a fait un reportage. C'était beaucoup des jeunes de la communauté Sikh qui, justement, formation de 10 à 12 jours, puis avoir go, t'es sur la route avec le camion.
Non, c'est ça. Puis ces camions-là, je veux dire, on cohabite avec eux sur nos routes au quotidien. Les gens à la maison, vous le savez, là. Puis moi, depuis que j'entends ces histoires-là sur la route, puis j'ai vu l'accident qui s'est passé sur l'autoroute 30 à Montréal, il y a eu deux décès. Honnêtement, ça me crée une anxiété quand je passe sur la route.
Moi aussi.
T'sais, demain, il faut que je m'en aille à Laval. On revient, je vais revenir dans le noir sur l'autoroute à 22h. Je me dis, tu sais, ça arrive des fois, moi, des situations avec des camions. T'sais, des fois, il faut freiner brusquement, puis tu as un camion qui est derrière toi. Vous le savez, là, c'est un enjeu. Il faut que tu regardes dans ton rétroviseur, puis tu te dis, je vais-tu me faire rentrer dans le derrière? Mais si la personne est sur Netflix...
Vous oui, parce qu'il y a ça, là, on écoute du Netflix, on écoute du TikTok, on n'est pas du
fini,
tout concentré sur la route.
Tu fais écraser comme une crêpe.
Ah oui.
Et là, on est l'automne, les routes sont dégagées, il pleut même pas, ça fait un mois qu'il n'y a pas plu.
Imagine.
Et là, on voit une augmentation d'accidents, imaginez l'hiver prochain. Wow. Donc, c'est un enjeu qui est québécois, mais qui est aussi fédéral, parce qu'on parle de transport interprovincial. Mm-hmm. Comme on disait tantôt, il y a certains chauffeurs qui sont basés en Ontario, ils vont aux États-Unis aussi, ces chauffeurs-là. Donc, le fédéral doit faire quelque chose. Le Bloc québécois qui demande une enquête, honnêtement, ça presse. On a un gouvernement en ce moment fédéral qui est étrangement réactif, là, parce que d'habitude, au fédéral, ça prend 1000 ans avant qu'on aille un iota de réaction sur quoi que ce soit. Je m'attends à ce que le gouvernement acquiesce positivement à cette demande d'enquête et pas une enquête qui va s'étendre sur 6 mois, s'il vous plaît.
Non,
des vies qui sont en jeu.
Exactement, une enquête très rapidement. Et parlant de s'étendre sur des mois, écoute ce que David Gauthier, porte-parole de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, avait à dire sur les négociations entre le gouvernement provincial et les contrôleurs routiers.
Ben effectivement, là, écoutez, là, il y a 27 dérogations là, qui ont sorti du jugement, que la juge a dit, ben pour vous régler les 27 dérogations, ça fait 7 mois, là, il y en a zéro de réglé. Donc, c'est sûr, c'est certain que demain matin, si on allait de l'avant avec l'arme de service, bon, on réglerait une majorité des dérogations, pas tous, mais il faudrait travailler avec ceux qui restent. Ça fait 7 mois qu'il y a une armée de fonctionnaires qui travaille à essayer de régler ça, puis il n'y a rien de réglé présentement.
Okay. Je suis pas un spécialiste, là, mais du jour au lendemain, on peut pas vous donner un gun sans que vous ayez une formation nécessaire.
Effectivement, là, vous avez parfaitement raison. Les contrôleurs sont formés 21 semaines à l'École nationale de police. Par contre, la partie armes à feu, la seule partie qu'on a, c'est si on trouve des armes à feu pour pouvoir faire les sécuriser. C'est la seule partie qu'on a présentement. Par contre, là, c'est une formation de 2 à 3 semaines. On ne pourra pas remettre tous les contrôleurs sur la route demain matin au jour 1. On annonce la nouvelle. Par contre, on va pouvoir commencer là, tranquillement à revenir sur les patrouilles une fois qu'il va y avoir des gens pour pouvoir avoir l'arme de service.
7 mois, c'est long. Bon, on me dit du côté du cabinet de Jonathan Julien, le nouveau ministre des Transports, qu'il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'il ne parle pas avec les contrôleurs routiers et qu'il n'essaie pas de régler la problématique. Est-ce qu'il y a eu laxisme de Geneviève Guilbeault avant? Peut-être. Mais chose certaine, je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi, le fameux « je vais faire un nouveau conseil des ministres le 30 juin » quand il a été fait au mois de septembre, là, ça étire des délais
c'est
comme ça.
C'est un exemple concret de ce que ça peut donner comme résultat. Mais juste sur le fond des choses sur les armes à feu, là. Tu peux pas d'un côté dire c'est trop dangereux d'intervenir, intervenez plus, puis dire ben on vous donnera pas d'armes.
C'est ça, à un moment donné.
C'est juste la pure logique là, à la fin de la journée. Fait qu'il faut que ça bouge rapidement. Puis effectivement, ça pourra pas le bout arme à feu pourra pas bouger en un mois.
Non.
Mais si on le fait pas tout de suite, ça sera pas dans 6 mois, ça va être dans 1 an et demi.
C'est ça.
Puis l'autre élément, c'est qu'il y a un bout qui appartient, qui a pas rapport avec les contrôleurs routiers, qui a rapport avec le fait qu'on laisse ces gens-là se promener sur les routes. Donc, comment on fait pour s'assurer que les entreprises n'embauchent pas des chauffeurs à rabais non formés? Ça, ça n'a pas rapport avec les contrôleurs routiers.
Non, si on est capable de le régler. Exact. Je vais reprendre l'exemple de Claude Villeneuve. On est capable de mâcher de la gomme en même temps. C'est deux dossiers qu'on est capable de régler.
On peut même mâcher de la gomme, écouter un podcast, puis regarder où est-ce qu'on va.
David qui nous écrit, c'est du laxisme depuis très longtemps. J'ai quitté le camionnage il y a 5 ans parce que j'étais plus capable. Il y a plus de 15-16 ans, j'étais dans une entreprise qui recevait des livraisons de personnes de l'Ontario. La moitié du temps, on devait reculer les camions pour eux parce qu'ils n'étaient pas assez bons. On les appelait les chauffeurs d'autoroute. Donc, tu vois, c'est pas un nouveau problème. Parlant de camionnage, Mathias, il y a un problème de circulation.
Oui, juste vous dire que présentement, sur Henri IV, direction sud, à hauteur de boulevard de chemin Sainte-Foy, on a un accident qui est présentement la voie de droite et la voie de gauche fermée. Donc, on a un ralentissement qui commence à se créer présentement. Le ralentissement qui remonte un peu à avant. Boulevard Charest. Si vous avez des informations, 418-971-1021.
Merci beaucoup, Mathias. Et continuez à nous texter au 418-971-1021. Antonine, je lève la tête, je regarde la TV. Ah! Regarde-moi donc ça. Mark est assis à côté de Donald. Là, Donald a dit, on va vous traiter de façon juste. Là, Donald dit, on est près d'une entente sur le Moyen-Orient. Mark est arrivé un peu moins flamboyant à Washington la première fois. Hein? C'est plus tough, là. Tarifs, on augmente les tarifs de 45 à 45%. % sur le bois d'œuvre au 14 octobre. La tarification, c'est poids lourd de 25 % le 1er novembre. Marc, il nous avait promis qu'avec son CV, il réglerait tout. Là. Ouf!
La queue entre les jambes, un peu.
Hein? Ouais, c'est ça. C'est toi qui le disais, j'osais pas.
Ben, écoute, oui, c'est correct. J'assume, j'assume l'image. Effectivement. Donc, est-ce que c'est correct de faire des rencontres à haut niveau entre un premier ministre et le président américain? Bien sûr. Est-ce qu'on a l'attente que Mark Carney allait tout régler pendant cette rencontre-là? Bien sûr que non. Mais c'est vrai qu'on est vraiment dans une position qui est difficile. On n'est pas face à un adversaire qui veut nous faire bien paraître ou qui veut nous donner des gains. On n'est pas dans une logique de gagnant-gagnant. Mais là, la pression politique augmente. Parce que c'est quoi la différence avec la dernière rencontre qu'on a eue le printemps passé? Ben, les oppositions étaient un peu en mode Mark Carney vient d'arriver.
Puis Poilievre n'avait même pas été élu dans son comté.
À l'époque aussi.
L'NPD venait de se scraper.
Ouais, ben, l'NPD, c'est encore de même. Là. Ça n'a pas changé. Mais du côté du Bloc québécois, par exemple, pendant la campagne électorale, le Bloc disait il n'y a pas rien que la crise commerciale dans la vie. On essaie de vous faire peur, on essaie d'éluder les autres enjeux. Puis finalement, François Blanchet, cet automne, il est bien là-dessus, là, la crise commerciale.
Oui, bien là, il s'est peut-être rendu compte qu'il a perdu 10 députés parce qu'il a pensé qu'il n'y avait pas juste la crise commerciale. Mais bon, ça,
c'est
une autre
bon
parenthèse.
Et Pierre Poilievre est maintenant de retour à la Chambre des communes. Donc, la pression augmente. Le gouvernement essaie de baisser les attentes. Mais c'est sûr qu'on a beau baisser les attentes, puis personne n'a l'impression que ça va se régler en deux minutes. On a zéro gain depuis des mois. Rien n'est réglé.
Et pourtant, le CV de Carney, l'économiste était censé régler ça. Puis autre chose qui était censé régler, c'était le budget puis le déficit. Mais là, pour régler ça, on va dire, ah, au niveau des dépenses gouvernementales, on est kiff-kiff avec l'argent qu'on reçoit. On est 100 milliards dans le trou parce que, sais-tu quoi, Antonine? On a fait des investissements.
Des investissements. Moi, je fais ça aussi à la maison avec mon chum. C'est pas une dépense? Ben, c'est un investissement,
ben moi, j'ai
ça?
Dit à Val, si on était Mark Carney, on serait vraiment riche parce que notre maison, on serait pas obligé de la payer. C'est un investissement.
Mais c'est un peu vrai, ça, pour la maison. Sauf que là, on est en train de nous dire que les petites caisses de son Bluetooth aussi, ça, c'est un investissement.
Ouais, ça, c'est vrai, t'as
parce
raison.
Parce qu'après ça, t'as la caisse Bluetooth. Après ça, les électroménagers, c'est un investissement, ça. Une bonne laveuse à 2000$, ça. Mm-hmm. Donc, quand t'aimes pas la somme puis les chiffres, t'as juste à changer ta manière de calculer, finalement. Fait qu'on change les règles comptables. Donc, à partir de maintenant, puis on le savait déjà, le ministre des Finances va présenter un budget qui fait la différence entre des dépenses et des investissements. Donc, ce qui rentre dans le déficit, on va évidemment changer. On avait déjà un indice de ça. Pendant la campagne électorale, le Parti libéral a déposé un cadre financier qui est un peu ton futur budget.
Oui.
Entre vous et moi, le cadre financier, ça n'a jamais rapport avec le budget, finalement. Là, c'est bien rare que tu aies une idée juste de ce qui va arriver, surtout dans un contexte d'instabilité économique comme on connaît maintenant. Mais il avait déjà annoncé qu'il allait commencer à présenter les choses différemment. Qu'est-ce que ça a comme impact? Ça fait en sorte qu'on ne peut pas comparer le budget de cet automne avec celui de l'an passé. Parce que ce n'est pas les mêmes règles comptables. Ce que ça va faire aussi, c'est qu'on nous a bombardé avec l'idée qu'on aurait un déficit de 100 milliards de dollars. Eh bien, probablement que le 4 novembre au soir, ça ne sera pas 100 milliards.
Non,
ça
va être 88.
Donc,
là,
c'est
on va
comment?
En avoir sauvé 12.
Hey, 88 milliards.
Ah, c'est rien.
Hey. Exactement.
Juste un déficit record. Hein?
Hey, bravo, Mark Carney.
Pour revenir sur la rencontre Trump-Carney, juste revenir un peu sur les points qui ont été discutés jusqu'à maintenant, parce que Trump a maintenant l'habitude d'accueillir les chefs d'État dans son salon devant tous les journalistes. Donc, le président Trump qui a affirmé que durant la réunion avec le premier ministre Carney, ça portera surtout sur le commerce, mais également sur la situation dans la bande de Gaza. Donc, on sait qu'ils vont parler de cette situation-là. On s'attendait que peut-être ce soit discuté, mais que ça sorte pas dans les médias, visiblement. Avec Donald Trump, tout sort dans les médias. Également, il a commenté sur les Canadiens qui boycottent les États-Unis, les produits américains, les voyages. Puis il a répondu avec un ton étonnamment aimable. Le président Trump qui a dit qu'il comprenait puis que présentement, il faisait face au même conflit du côté des Américains qui veulent pas acheter de voitures fabriquées au Canada. Puis il a même dit « c'est quelque chose que nous allons régler. Il y a beaucoup d'amour entre les deux pays ». Et dernièrement, le président Trump qui a assuré que le premier ministre Carney sortira très content de sa réunion à la Maison-Blanche. Il a dit « nous allons parler de choses sur lesquelles nous ne sommes pas nécessairement d'accord, mais il sortira très content d'ici ». M. Trump qui a également affirmé qu'ils allaient traiter du fameux dôme d'or dont il a déjà été question par le passé.
Oui, à combien de milliards on allait mettre là-dedans? Mais ça ne va pas nous coûter une scène si on devient le 51e État.
Mais là, il a dit, là, le Canada est un pays très compétitif. Les démocrates n'ont aucun leadership.
Ouais, ils mélangent tout. Là,
Donald est en train de se laisser aller sur tous les sujets.
Je sais même plus quoi dire.
Ah oui? Ah, ben, je tiens à dire, justement, quand tu dis « se laisse aller sur tous les sujets », j'ai ressorti un peu des citations positives puis qui avaient un peu de sens. Mais il a aussi dit que le déploiement de la garde nationale dans les différentes villes démocrates aidait le Canada. pour quelle raison, on ne sait pas.
Voilà.
Mais Donald Trump a également affirmé cela.
On adore notre Donald. Et là, vous comprendrez mon sarcasme. Simon qui écrit « Mark Carney rencontre toutes mes attentes envers lui, étant donné que je n'avais aucune attente. » Bon, c'est une vision de la chose, Simon. Guillaume qui dit « Ben, beau être économiste, Trump ne cherche pas à négocier. Il veut juste qu'on se plie à ses petites crises du bacon. En effet, c'est très dur de négocier avec Donald Trump. » Et il y a une question ici, puis je veux que tu y répondes, Antonine. C'est un auditeur ou une auditrice qui nous écrit « Ben ouais, mais Jeff, qui aurait réglé ça avec les États-Unis? »
C'est la question et c'est ce qui sauve Mark Carney.
Oui.
Parce que si, par exemple, on voyait en Pierre Poilievre quelqu'un de plus compétent pour le faire, Mark Carney, là, il serait vraiment dans la chenoute. Mais tout le monde se dit c'est un adversaire complètement qui sort de tous les cadres qu'on n'a jamais connus. Puis personne ne réussirait nécessairement à faire mieux. C'est ça qui sauve Mark Carney.
La seule affaire, puis là, je vais faire un parallèle avec ce qu'on a parlé du débat au niveau des candidats à la mairie puis des promesses de Stéphane Lachance. La seule affaire, c'est que Mark Carney a tellement élevé les attentes qu'on n'a pas le choix d'être déçu. Même si personne n'aurait fait mieux, lui, il les a tellement élevés qu'on dit, ouais, OK, mais il nous a promis ça, pourquoi qu'il ne nous le livre pas? Et c'est le même problème.
Il gagne sa campagne électorale, hein? C'est la dynamique politique qui a créé ça.
Bien, c'est ça. Alors, c'est pour ça que je ramène ça au municipal. Stéphane Lachance, ses promesses au niveau de coupure, au niveau de gel de taxes, ça peut être très intéressant pour un contribuable. Mais il va-tu être capable de délivrer rendu?
Puis, tu sais, on en parlait la semaine passée des attentes que Stéphane Lachance met à Québec. Puis, on se disait, est-ce que ça fait pas finalement augmenter le cynisme? Parce que des gens qui font comme enfin un politicien qui va faire ça, puis après ça, ben on sait bien, ils sont tous pareils.
En plein ça. Antonine, on termine. Je te fais écouter L'heure est grave de Ruba Gazal, mais on commentera pas tout de suite. On va aller à la pause, puis par la suite, on va en parler avec notre chroniqueur Rémi Villemur.
Ça te va?
Ça te convient? L'heure est grave, cher progressiste. Je pense qu'il faut prendre un petit moment de silence avant.
Y a-tu quelqu'un qui a un violon?
On écoute Ruba Gazal.
OK.
Cher progressiste du Québec, l'heure est grave. Nous vivons un virage du climat politique jamais vu au Québec. Les progressistes sont en train de se faire démoniser. On tente de nous faire porter la responsabilité de toutes les crises actuelles, alors que la gauche n'a jamais gouverné. Cette stratégie alimente une véritable chasse aux sorcières où les progressistes sont la première cible. Ça se manifeste de plusieurs façons. De la caricature de nos propositions en les déformant jusqu'à de l'intolérance décomplexée qui se répand en ligne. Ma collègue Christine Labrie a dû fermer sa page Facebook dépassée qu'elle était par une vague d'attaques haineuses et homophobes. Même des journalistes se voient forcés de retirer leurs publications envahies de commentaires racistes. Et pendant ce temps-là, certains chroniqueurs inventent des polémiques au lieu de s'attaquer aux vrais enjeux du Québec.
Sur ces belles paroles, Antonine, on va à la pause et on se garde en tête que la gauche n'a jamais gouverné.
Je vais profiter de la pause pour réfléchir à tout ça.
Juste vous parler qu'il y aurait, selon les dires de plusieurs auditeurs, un gros incendie sur la rue Jean-Marchand dans le parc industriel. Si vous avez des informations, 418-971-1021.
Ruba Gazal l'avait dit, l'heure est grave. Vous êtes à Boulevard 1021 à l'émission On en jase. Rémi Villemur s'installe avec nous par la suite. On va parler justement de cette heure grave de Ruba Gazal et on va revenir sur le projet de constitution du Québec. Simon Jolin Barrette, il met le caca entre le PQ et QS.
Un bon coup politique.
Et voilà. On en parle immédiatement après cette courte pause. On en jase jusqu'à